c'est les philosophes qui ont écrit en arabe. Pourquoi lire les philosophes arabes? C'est les philosophes qui ont écrit en langue arabe. Je le dis en introduction. Al-Farabi a écrit en arabe parce qu'il a vécu à Bagdad, bien qu'il vienne d'Asie centrale, Al-Farab. Et Avicenne est perse, bien évidemment. Mais si vous voulez, la langue arabe a été une langue d'unification du savoir à ce moment-là, comme la langue française au XVIIIe siècle. Leibniz, c'est un philosophe allemand, mais les nouveaux essais sur l'entendement humain de Leibniz sont écrits dans un français extraordinaire. Catherine de Russie, Frédéric II de Prusse ne parlaient que français. Le XVIIIe siècle, la langue française était une langue de savoir. L'arabe a été cette langue de savoir. Pourquoi lire les philosophes arabes? Mais je m'en explique dans l'introduction. C'est la langue qui unifie et pas du tout l'ethnie. Merci, c'est une précision importante.
Au XVe siècle, l'Italie parlait aussi français.
Première question, s'il vous plaît. La première question.
Et la première question, oui, pardon. Ben oui, philosophe arabe. Vous savez, musulmans de diverses façons. Chiites, duodécimains, ismaéliens.
Pas musulmans.
Et pas musulmans du tout. Dans ces philosophes arabes que j'ai pu lire, ils avaient tous un rapport avec l'islam, ceux qui ont écrit en arabe. Excusez-moi. Je majoritairement, c'était des musulmans, mais je parle bien sûr de Maïmonide. Je l'intègre parce qu'il a écrit en langue arabe. Le guide des égarés, moi je propose un nouveau nom de son livre. C'est pas un guide pour les égarés parce qu'il n'y a pas d'égarés, il n'y a pas de guide. C'est un signe pour les perplexes. En arabe, Dalal al-Halili. Dalalet, c'est un signe. Halili, c'est perplexe. Un signe pour les perplexes, et ça sonne philosophiquement beaucoup mieux. Et effectivement, il a écrit en langue arabe, donc c'est pour moi un philosophe arabe. Et Matta ibn Yunus, chrétien, logicien. Donc, il n'y a pas que les musulmans, mais ceux dont je parle majoritairement, qui ont laissé une œuvre colossale, sont surtout musulmans, mais non, c'est ceux qui ont écrit en langue arabe. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans. Des athées, j'ai pas trouvé vraiment.
Donnez le microphone pour la dernière question.
Moi aussi, je resterai bien pas regardé. Hein. Vous pourrez la poser la question directement après.
Le soir, c'est pas mal.
Vous avez une vraiment? C'est l'ultime.
Dans mon livre, je parle bien évidemment du grand sursaut de traduction du 19e et du début du 20e en Égypte, qu'on appelle la Nahda, la Renaissance, et en particulier, je consacre une grande étude à Ali Abderrazak, qui a écrit l'Islam et le fondement du pouvoir, et qui a précisément dans la veine ouverte, si je puis dire, alimenté par Ibn Khaldoun, qu'il cite beaucoup, il indique qu'on oublie toujours, quand on parle de l'islam, on cite toujours dans les sciences sacrées, l'exégèse religieuse, l'exégèse juridique, dit ben, moi je voudrais vous parler du pouvoir, l'islam et les fondements du pouvoir, pas les fondements du religieux, pas les fondements du droit, mais du pouvoir, et comment tous les rapports de force, précisément, comment des califes dans l'histoire ont cherché à légitimer leur pouvoir en allant chercher dans le texte, en le forçant, des choses qui n'y sont pas. Et il reprend de manière répétée un credo dans le Coran, « Nulle contrainte en religion ». S'il n'y a aucune contrainte en religion, tout ce qui est contrainte ici-bas ne relève que de la loi civile et aucunement de la divinité. Justement, tout à l'heure, on parlait d'ordre divin. L'ordre divin, peut-être que le messager, le prophète, savait ce que c'était qu'un ordre divin parce qu'on lui a parlé, mais nous, on ne comprend de l'ordre que la contrainte de la loi, et pour nous, la loi française, précisément. La contrainte n'a de sens que civile. Il n'y a pas de contrainte religieuse. Et il développe cette ouverture extraordinaire, cet humanisme. Et je crois à votre seconde question, l'humanisme. L'humanisme n'est pas, vous avez des régressions, et pourquoi peu régression et pas nous, etc. La régression, les valeurs, hein, après les attentats de janvier, les gens qui ont dit nous sommes là pour défendre nos valeurs, moi j'ai un frisson qui traverse le dos, nos valeurs ce sont des valeurs humaines de tous. Ce n'est pas nos valeurs au sens des valeurs européennes. Je vous invite à lire le travail du Britannique Jack Gooding dans Le vol de l'histoire, où il dit que l'un des grands mythes de l'humanisme européen, c'est d'avoir détourné des valeurs humaines largement partagées sur cette planète en disant que c'était des valeurs seulement européennes. Ce sont des valeurs humaines de partout. Quand vous... C'est pas loin... Février 2011, le printemps arabe, des peuples se sont soulevés partout pour exiger la liberté et la justice. Donc, il n'y a pas dans leur schéma culturel l'idée qu'ils ne sont pas dans la valeur de liberté et de justice. Donc, il faut toujours parler des humanismes. Et quand vous avez commencé à parler de l'âge oublié, moi, ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est de rapatrier dans le lot commun de tous les humanistes ces esprits libres, comme vous le dites. Parce qu'en réalité, il n'y a pas, en quelque sorte, ce que j'appelais l'incarcération civilisationnelle, incarcérer l'autre dans une supposée obscurité de sa civilisation. En revanche, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'il y a un déficit éducatif dans les pays de tradition arabo-musulmane. Mais ça, c'est un déficit éducatif dû à des politiques. Quand vous avez un Libyen tyran sanguinaire pendant 40 ans en Libye, comment voulez-vous faire de l'éducation ? Quand vous avez, et puis je peux continuer, le Yémen, l'Arabie Saoudite, que tout le monde flatte en raison de son pétrole, mais qui est dans une régression épouvantable, qui n'a pas utilisé son pétrole pour éduquer pleinement. Éduquer, c'est-à-dire permettre la pleine osmose des savoirs. On ne peut pas continuer. Dernièrement, vous avez vu, c'est un Saoudien qui a dit « Je vais vous démontrer que la Terre ne tourne pas ». C'est absurde, absurde. L'Église s'est excusée, elle a dit « Non, mais elle s'est excusée auprès de Galilée, de la mémoire de Galilée en 1992 ». Tard, on l'a fait. Je vais vous citer le chapitre d'Hermégie, la fin du 19e siècle. Le Japon était complètement, je dirais pas en régression, comme vous avez utilisé le mot honorable pour le mot musulman, en isolement. Ce qui fait une impression de régression, c'est l'isolement. Quand vous êtes connecté, vous savez, le monde arabe, la langue arabe, traduit, public, moins de livres que la Suisse, le monde arabe entier. Là est le problème. Et le problème est un problème de responsabilité politique, n'a rien à voir avec l'islam. Je rappelle ce que l'ONU dit en février 2001 et en novembre 2007, toutes les civilisations appartiennent à la même humanité. Et dire qu'une religion produit de la terreur, produit des conséquences fâcheuses. Il faut laisser tranquille les religions et s'occuper des citoyens. Et l'Hermégie, au Japon, les responsables politiques ont dit la différence entre les peuples européens et américains et nous, c'est un peu plus ou un peu moins d'éducation. Voilà, un peu plus ou un peu moins d'éducation, c'est tout. Ni shintoïsme, ni protestantisme, ni rien du tout. Un peu plus, un peu moins d'éducation. Eh bien, l'éducation au Japon, ça a été une telle volonté politique qu'en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, le Japon, plus pauvre que le Royaume-Uni, qui était un grand empire, plus pauvre que les États-Unis, publiait plus d'ouvrages et avait totalement scolarisé sa population que le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc, on peut éduquer tout en n'étant pas si riche que ça. On ne va pas attendre d'être très développé. Et on peut être très riche par le pétrodollar et ne pas éduquer. Et le principe, c'est l'éducation. Cocktail explosif, dit l'ONU, de notre monde. Elle ne cite pas la religion. La maladie, l'inégalité, la pauvreté. Cocktail explosif. La maladie, l'inégalité, la pauvreté. Tout le monde tombe malade, quelle que soit sa religion. Tout le monde peut être pauvre, quelle que soit sa religion. Tout le monde peut subir l'inégalité, quelle que soit sa religion. Il faut repérer les vrais fléaux.